Après les saisons 5, tu pensais qu'on freinait. Le buzz sonne encore, puis nous autres on revient. Pas d'arrêt, non merci, on débarque plus fort. Saison 6, c'est parti, la game est loin d'être mort. Avec nos invités qui viennent parler sans filtre. Des histoires de hockey, pas juste des stats de fiches. On lâche nos patins, direction la glace. Prêt pour la guerre, les vraies questions y passent. Et on repart encore une fois sur le powerplay. Toujours là pour le monde, on est déjà bien ancré. Autour du filet, tu sors de la tempête. Mise en échec, personne nous arrête. Tire de barrage, le gardien tombe sous la pression. Sur la bande, on crée nos propres conversations. Tu vas trop occupé, jamais loin des fans. Si tu respires le hockey, ben t'es déjà sur la bande. Zéro hésitation, la foule fait de l'attitude. Le ref donne le signal. Nouveau commanditaire, non, ça bat toutes ses notes. En été ou en hiver, c'est le hockey qu'on supporte. Là où ça compte, prêt pour le décompte. Dans la joie ou la honte, jamais nous qu'on s'effondre. Toujours des nouveautés pour jouer une petite pensée. Les lames bien aiguisées, toi t'es un vrai guerrier. Remplir les arénas pour le hockey junior. Les jeunes sont toujours là et leur talent c'est de l'or. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande, faut écouter, ici c'est podcast du hockey.
Salut Claude.
Hey, salut Seb, comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Eh ben oui, ça va, puis bonjour tout le monde en même temps. J'espère que vous allez bien, prêts pour un épisode ce soir avec Philippe Roy de Perfo Elite.
Yeah, ça va être un épisode très intéressant, notre deuxième épisode déjà de la saison, ça va vite, on a la troisième cette semaine, je vais dire l'invité un peu plus tard au courant de l'épisode, donc soyez là. Fait que je pense qu'on est prêt pour la première mise au jeu de la semaine.
Ah oui, déjà?
Ah ouais, si tu veux y aller, vas-y.
OK, let's go.
On est prêt! On est prêt! Let's go!
Mesdames, messieurs, Philippe Roy.
Salut, Phil.
Salut, ça va?
Ça va super bien, toi?
Yes.
Yes, je voulais dire un petit message avant. La mise au jeu est une présentation de Simplement Bénédicte pour un courtier immobilier si il vous faut. Pour commencer, Philippe, on a besoin d'une petite présentation de toi pour savoir qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas.
Oui, ben écoute, ceux qui ont écouté la description du podcast, ils en ont une bonne quand même description. Écoute, je suis un gars d'originaire de Val-d'Or, en fait, de l'Abitibi. Donc, de votre coin, j'ai déménagé pour l'école principalement, mais j'ai fait tout mon hockey mineur en région, en Abitibi, à Val-d'Or, je me suis promené un petit peu Malartic, Rouyn, donc selon où est-ce que les équipes élites étaient. Puis à partir de là, en cours de route, j'ai développé en quelque sorte une passion de l'entraînement. Puis on va sûrement en parler un petit peu tantôt, là, mais c'était pas ce que j'aimais le plus quand j'étais plus jeune. C'est quand même assez ironique, mais j'ai développé ça en cours de route quand j'ai arrêté de jouer au hockey. J'ai décidé par la suite de pousser les études dans ce volet-là pour aider, en fait, tout simplement, les prochains joueurs et joueuses de hockey à éviter un petit peu l'espèce d'expérience que moi, j'ai vécue ou dans l'espèce d'environnement que j'étais pour aller chercher, en quelque sorte, le plaisir là-dedans aussi. Ça fait un petit peu topo là, rapide de mon parcours sportif. Puis, par la suite, dans l'école, là, c'est vraiment un niveau kinésiologie, donc un bac, une maîtrise en kin. Donc ça, c'est vraiment volet préparation physique en soi. Tout ce qui est réathlétisation aussi, on touche à plusieurs volets de ça. Puis présentement, en doctorat en développement athlétique aussi au hockey, chez les joueurs de hockey. Puis en cours de route, je suis allé chercher d'autres chapeaux, donc naturopathe en même temps, puis aussi tout ce qui est au niveau de la posturologie. C'est un ensemble que beaucoup de monde néglige ou oublie ou ne connaissent pas, qui a pourtant beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc, c'est pas mal ça en termes de parcours rapide là, en soi. Après ça, on va sûrement en parler tantôt, mais ouais. Collaborer RDS, BPM Sport, puis un petit peu partout, j'essaie d'aider là, le plus possible les connaissances en développement athlétique.
on n'a même pas commencé le podcast en tant que tel, puis je suis déjà impressionné, moi. Écoute, c'est ça. Bref, on va lancer le segment autour du filet.
Autour du filet. Yes, autour du filet est une présentation de The Fort Line, fait pour les travailleurs d'ici. Comme tu as dit un peu, tu as grandi à Abitibi. Si je ne me trompe pas, tu as fait 2 ans à la GMQ. Comment tu as grandi un peu de ce parcours-là?
Ben, je te dirais que plus qu'on avance dans le hockey, plus qu'il y a des entonnoirs hein, en ouais. soi. Niveau à la GMQ, l'entonnoir elle se resserre quand même relativement rapidement. Donc, ouais. je te dirais que c'est pas mal là que j'ai remarqué que justement, ça prend de l'effort, ça prend du travail pour passer en quelque sorte, c'est faire les équipes en soi puis de continuer là-dedans. Fait que je te dirais que ça a été une des réalisations que j'ai remarqué à ce niveau-là. Puis aussi le volet de la persévérance en soi. Tu sais, moi, j'ai pas été repêché, j'ai été invité comme 17 ans à Rouen en 2014. Si je me souviens bien. Puis en 2015, donc l'année après que les Foreurs aient gagné, 2014 avec 2015, je suis allé faire le camp des Foreurs aussi, encore une fois, en tant qu'invité. Où est-ce que j'ai, à force de persévérer puis de mettre des efforts tout le temps, j'ai relativement, on va dire tout ça de même, mais toffé longtemps dans le camp, plus longtemps que je m'attendais. Donc, en gros, je te dirais que ça a été pas mal deux réalisations là, que j'ai remarquées qui m'ont fait ouvrir les yeux en soi là, après ces deux parcours-là. Là.
Est-ce que ça peut aider les jeunes athlètes que tu entraînes à la vision que tu avais quand tu étais plus jeune?
Bien, c'est sûr que dans certains athlètes, je me revois quand j'étais plus jeune. Okay. Donc, c'est plus facile de leur faire, de leur parler en fait de cette expérience-là. Puis souvent, les plus jeunes athlètes que je côtoie, que je travaille avec eux, ils vont pas me voir comme une idole en soi, là, mais mm-hmm. comme une espèce de figure où est-ce que il a passé par là, il sait relativement qu'est-ce qu'il dit. Puis après ça, ben là, il écoute, puis tu sais, quand que je les amène des faits vécus, de l'expérience derrière aussi, ben là, ça fait en quelque sorte plus réaliser aussi, veut pas l'athlète, certaines choses. Fait que quand tu vois quelqu'un, tu sais, que ce soit peu importe dans quoi, c'est un mentor dans la vie, ça te permet de faire éviter certaines erreurs que lui, il a vécues, tu sais, ou il a surmonté, puis de pouvoir progresser en quelque sorte plus vite. Fait que c'est un peu le même que j'essaie de l'apporter là, avec les plus jeunes athlètes là, que je travaille avec eux.
Dans ton parcours à toi, là, qu'est-ce qui t'a amené de passer du hockey à kinésiologie? C'est même qu'on dit ça, en tout cas, bref.
Kinésiologie,
tu sais. C'est quoi le déclic que fait que hey, moi, je veux aller là-dedans?
Ben, tu sais, moi, mettons, pour revenir un peu à mon parcours, quand je me suis retranché du camp des Foreurs, j'étais supposé aller jouer collégial, en fait. Fait que je m'étais déjà inscrit dans une école au collège, dans le coin de Montréal. Dans ma tête, j'étais déjà déménagé. T'sais. Le fait d'avoir toffé aussi longtemps que ça, c'était du bonbon, c'était du bonus en soi. Après ça, c'est ça. Fait que moi, je me suis retranché. J'étais allé voir le coach tout simplement après une game hors concours. J'avais scoré d'ailleurs. J'étais allé le voir puis voir un peu c'était quoi son plan de match, ainsi de suite, parce que sinon. Genre, moi, j'allais partir. Le cégep commençait dans les jours à suivre, tu sais, après. Fait qu'il dit, écoute, l'équipe est faite quand même, puis tout ça, puis on a aimé ton camp, blablabla. Puis, fait que là, j'ai dit, regarde, c'est bon, c'est parfait. Moi, je vais aller jouer ma saison, tu sais, puis au pire, l'année prochaine, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Fait que ça reste comme ça. Puis, tu sais, ils ont été super satisfaits du camp que j'ai fait. Je me suis dirigé vers mon cégep que j'étais supposé aller jouer. Puis finalement, ben, le coach me dit, hey, le cégep commence, mon équipe est faite. Fait que là, je me suis retrouvé un petit peu à déménager dans le coin de Montréal puis arrêter le hockey straight up comme ça. Puis on s'entend que je viens de l'Abitibi. Fait que du monde, des connaissances dans le coin de Montréal, j'en avais pas. Fait que j'ai complètement arrêté de jouer comme ça. Puis j'ai fait mon cégep quand même ma dernière année là. Puis après ça, ben ce qui est arrivé, c'est que là, à un moment donné, je baignais dans le hockey à tous les jours. L'entraînement, je côtoyer des amis, et ainsi de suite, je m'en vais au cégep, je connais personne, je fais plus de sport, fait que je me suis inscrit au gym, puis j'ai commencé à tranquillement développer un peu l'amour du gym en soi, puis là, ben, deuxième année cégep, c'est là que tu choisis un peu tes choix universitaires. Puis la kinésiologie, en fait, c'était tout simplement c'était mon troisième choix sur les 1, 2, 3. Mon premier choix, c'était en fait la biologie. Donc, okay. Dans ma tête, moi, j'ai toujours adoré au cégep tout ce qui était chimie, physique, faire des expériences en laboratoire, je tripais. Fait que la biologie me parlait beaucoup. Donc, tout ce qui était, en quelque sorte, travailler dans des laboratoires. Après ça, mon deuxième choix, c'était le classique de quasiment tout joueur de hockey, là, être prof d'éduc. Puis après ça, ben, le troisième choix, c'était kinésiologie, que je savais plus ou moins c'était quoi, pour être 100% transparent. Je savais que c'était en lien avec l'entraînement, mais sans plus. Puis après ça, j'ai été accepté dans les trois, mais j'ai quand même choisi la kin là, pour la suite, parce que l'amour pour la préparation physique, plus que je lisais, plus je me rendais compte que Colin, à qui je pourrais vraiment continuer à graver, mettons, dans mon rêve de joueur de hockey, mais en aidant les autres, tu sais. Fait que je me suis vraiment dirigé là-dedans, puis après ça, ben, le reste, c'est de l'histoire en soi, là. Ça continue, puis j'ai pas arrêté encore, j'ai pas fini mon école, puis après un doctorat, on sait pas, il existe des post-docs, fait qu'à suivre. Mm-hmm.
À quel moment tu as réalisé que la préparation physique pouvait faire une énorme différence dans le développement d'un joueur?
Ben, au moment où est-ce que... Ben, tu sais, ça reste que quand tu joues au hockey, ou plus que tu joues, plus tu t'entraînes, plus que tu vois, tu sais, des résultats en soi, mais des fois, tu le vois, mais tu fais comme « Ah, j'ai grandi, ah, je suis... » Tu sais, la poussée de croissance, et ainsi de suite, mais tu sais, à la minute que j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai pas joué pendant comme un an et demi, avant de remettre mon stock complet. Mais dans cette année-là et demie, je m'entraînais quand même très fort puis très bien, à force de lire et ainsi de suite, puis étudier là-dedans. Fait que ça a fait en sorte que quand je suis rembarqué sur la glace, étonnamment, j'étais plus rapide, ma shot était plus forte. Littéralement, je ne me reconnaissais pas sur la glace. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis à force de voir la corrélation en soi, là, tout simplement, c'est là que je me suis rendu compte que OK, la préparation physique, quand tu as fait comme il faut, puis tu te donnes vraiment bien là-dedans, ben ça peut faire des beaux miracles là, en soi. Là.
Moi, écoute, bon, j'ai un parcours hockey, mettons, on va dire, assez usuel, parce que, bon, bref, j'ai joué quand j'étais jeune. Ensuite de ça, j'ai eu des enfants, je les ai coachés, j'ai arbitré. Mais je reviens juste à mon... quand je coachais, parce que bon, j'ai trois gars qui ont joué au hockey, ils ont commencé à 4 ans, ils ont fini jusqu'à midget. Les parents, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Bref, où est-ce que je m'en vais avec ça par rapport à ma question, c'est j'ai beaucoup de parents qui disent hey, moi, mon kid, il va être dans le top, puis pendant l'été, il fait du gym. Le kid, il a 7 ans, puis il est pas gros le même. À quel âge est-ce que la préparation physique sérieuse devrait vraiment commencer là, pour un jeune?
Oui, ben tu sais, souvent ce qu'on va penser quand on parle de préparation physique, on va beaucoup penser à des poids, des haltères, des barres, des gros squats, puis du bench, puis tu sais, le mot préparation physique sonne beaucoup avec ça, mais en réalité, la préparation physique, c'est tellement large, puis quand tu rentres après ça de la naturo, où tu rentres de la posture au travers de tout ça, ben tu te rends compte que c'est un peu comme un enfant, tu sais, il naît, tu sais, l'infirmière va faire des tests de réflexes archaïques, genre, elle va regarder le Babinski en dessous des pieds, puis, mais tout ça, c'est le début de l'apprentissage moteur, c'est le début des patrons moteurs à maîtriser, puis ça, ils font ça quand il y a à peine 3 minutes de vie, là, tu sais. Donc, au final, la préparation physique, c'est que ça touche aussi beaucoup, là, tout ce qui est patrons moteurs, tout ce qui est au niveau du système nerveux. Puis au final, ben ça peut venir se travailler vers les âges de justement 5, 6, 7 ans, de développer des patrons moteurs. Puis là, quand je parle de là, c'est pas encore une fois d'apprendre à faire des squats, puis ainsi de suite. C'est vraiment juste de littéralement apprendre, exemple, à courir ou apprendre à absorber un impact, puis de sauter sur des différents objets, ou puis vraiment d'amener ça dans une espèce de forme ludique puis de plaisir au travers. Puis après ça, ben là, quand vient un peu plus tard, on va dire entre guillemets, vers les 7, 9 ans, où est-ce que généralement, dans un parcours de développement neural vers l'âge de 7 ans, les enfants devraient avoir acquis certains seuils de patrons moteurs. Bien là, on peut voir s'il y a des déséquilibres ensuite, commencer à travailler au niveau de la posture. Parce que tout ce qui est postural, c'est un déséquilibre. C'est un peu, moi, j'aime ça le comparer avec une Formule 1. Puis si j'ai une Formule 1, j'ai bien beau avoir la meilleure Formule 1 le plus d'aérodynamisme possible, le meilleur moteur, le meilleur pilote, tout, mais si je roule sur deux flats,
il n'y a, ah,
a, exact, il n'y a quand même aucune chance que je finisse la course, tu sais, ou je la gagne. Puis ouais. Si je roule avec deux tireurs dégonflés, puis c'est déséquilibré, ben, mais je pogne le croche à 300, je me ramasse un tireur, tu sais. Fait qu'au final, je me donne aucune chance de bien performer, puis à la longue, ben, ça va faire tout simplement que je vais créer des blessures d'usure. Donc, des blessures qui... tout ce qui est des blessures à laine, généralement, c'est des blessures qui proviennent beaucoup de la posture puis de surcharge. Donc, à partir de ces âges-là, pour revenir à la question initiale, à partir de ces âges-là, c'est là qu'on commence à voir ça puis qu'on peut commencer à travailler là-dessus. Parce que si j'essaie de bâtir de la force, de la vitesse, de la puissance vers l'âge de 13, 14, 15, 16, 17 ans, sur un frame qui est croche, ça risque que je vais manquer... Mon potentiel ne sera pas à son max, de un. Puis de deux, à un moment donné, à force de créer de la charge comme ça, je vais créer mon déséquilibre est encore plus grand. Puis là, je crée une compensation. Puis là, on n'est pas plus d'avance. Fait que c'est vraiment, ça y va un peu par étapes. Mais vers ces âges-là, quand c'est bien fait puis c'est bien contrôlé, c'est quand même presque, on va dire, l'idéal. Mais c'est très large, hein, préparation physique. Il ne faut pas penser, encore une fois, que c'est des gros sauts de la pliométrie puis des squats avec des charges, puis ainsi de suite.
Non, non, c'est ça. Donc, c'est important d'être accompagné. C'est pas nécessairement proscrit, mais il faut que ce soit bien accompagné.
Oui, c'est que souvent, tu parlais avec les parents, c'est dur à gérer. En tant que coach derrière le banc, en tant que préparateur physique, on a aussi... Des fois, on a le plus beau rôle, mais reste que, tout dépendamment, il y en a qui ne comprennent pas des fois l'expertise qu'on peut avoir ou pensent qu'on est un suppléant dans le gym, tu sais, puis que au final, c'est rien structuré pour leur enfant parce qu'ils ont leur préparateur physique à eux, tu sais, à l'externe. Mais, tu sais, c'est difficile à gérer d'un sens parce que ce qui arrive, c'est que les parents vont avoir un peu le faux mot, le « fear of missing out ». Tu sais, c'est un truc qui se passe partout dans les arénas. C'est assez hallucinant. Mais, tu sais, les parents vont se parler « Ah, moi, j'envoie mon jeune le dimanche matin voir tel gars de power skating, c'est tellement bon, blablabla. » Il revient, il brûle et raide, puis... Fait que là, oh, t'as peu, là, lui, il fait ça. Fait que là, moi aussi, il faut que j'aille faire ça, tu sais. Fait que là, il l'inscrit, puis là, ainsi de suite, mais ils prennent aucunement en considération la charge, la capacité de travail de leur athlète, tu sais, puis ils la connaissent juste tout simplement pas. Fait que là, ça fait qu'à un moment donné, il y en a qui sont en surcharge. Puis là, c'est là que là, ça peut créer vraiment des problématiques, même si c'est bon, tu sais, ce qu'ils vont faire, tu sais, au final. C'est un peu... j'adore faire des comparaisons, hein, vous allez voir ça, là, mais c'est un peu comme une carte de crédit. Où est-ce qu'on peut être 20 athlètes ou 20 parents avec des cartes de crédit, on sort ça, on dit notre limite, puis il n'y aura pas une personne qui aura la même.
Non.
Tu sais? Bien, c'est la même chose pour les athlètes. Même si on exemple tous des parents, on va dire, de 25 ans, exemple, bien, au final, le parent de 25 ans, c'est jeune, mais en tout cas, vous comprenez. Fait que, tu sais, même si on est tous la même âge, tous des adultes, bien, parent de 25 ans en Abitibi, c'est vraiment plus commun que dans le coin de Montréal.
Okay.
Fait que ceux qui m'écoutent de plus dans Montréal, ils vont, voyons. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'au final, tu sais, si on est tous égal, la même âge, biologique, le même stade dans la vie, ben, il y en a qui vont penser que mais ils devraient travailler de la même façon. Mais en réalité, c'est un peu comme une carte de crédit où est-ce qu'il y en a qui peuvent en prendre plus sur leurs limites, puis sont capables de la faire réduire, tu sais, la limite de la carte. Puis en préparation physique, là, c'est là que mon exemple est un petit peu moins bonne, mais en préparation physique, tu veux loader ta carte avec un buffer de récupération pour l'ordéloader pour le mois d'après, tu sais. Puis tandis que c'est pas vraiment un conseil financier là, de faire ça, normalement, mais tu sais, c'est un peu le même concept. Il y en a qui sont capables de prendre plus de limites que d'autres puis de la faire réduire, tandis qu'il y en a d'autres que à 2000, c'est max out, il faut qu'ils leur payent. Et ainsi de suite, ils ne peuvent pas dépasser ça. Sinon, ben, on dépasse la limite, qu'est-ce qui arrive? On paye des frais. Puis des fois, ça peut être difficile de redescendre de là. Fait que, c'est exactement la même chose en préparation physique. Je peux prendre une équipe de joueurs toutes M13, puis ont toutes des limites différentes, des charges de travail différentes. Puis il y en a qui vont mieux récupérer d'autres. Puis, fait que tu sais, c'est vraiment de l'optimisation rendue là.
OK, donc, c'est ça, je comprends bien. Fait que chaque athlète est différent. Donc, un jeune de 13 ans ne peut pas nécessairement être entraîné de la même façon que l'autre jeune de 13 ans. Donc, encore moins qu'un jeune de 18 ans.
Ben oui.
Ouais.
Là, on commence à comparer... un melon d'œil avec une pomme. Là.
Ouais, je comprends.
Tu as une entreprise, vous gérez beaucoup d'entraînement chez plusieurs équipes. Comment cela fonctionne?
Ouais. C'est quand même assez complexe. On pourrait partir sur plusieurs heures, mais en réalité, nous, de la manière qu'on travaille avec une équipe, qu'on travaille avec un athlète à l'individuel, on a nos, en quelque sorte nos piliers qu'on a déterminés. Puis ces piliers-là, on en a six, puis c'est des piliers qui sont primordiaux pour développer un athlète, c'est à la base. Fait que c'est un peu le même concept pour une équipe, parce qu'au final, c'est plusieurs athlètes dans une équipe. Ouais. Je te dirais là où c'est plus facile, dans le contexte des équipes, quand que, on va dire que la vie est rose et qu'il n'y a personne qui va faire de l'extra ailleurs, c'est qu'on a en quelque sorte le contrôle sur qu'est-ce qu'on fait dans le gym, mais aussi on a connaissance de qu'est-ce qu'ils font sur la glace. Donc, à la minute qu'on a un contexte idéal, qu'on a toute l'information, bien là, c'est là que ça commence à être le fun parce qu'on peut vraiment bien gérer l'équipe. Mais tu sais, à la base, c'est vraiment, c'est ça. On a des questionnaires, on a des metrics, donc des indicateurs de performance, donc qu'on mesure, qu'on quantifie. Puis ça nous permet de pouvoir avoir ce fameux ratio de charge de travail-là à l'individuel pour voir la moyenne de l'équipe est où. Puis après ça, ajuster en fonction de qu'est-ce qu'ils font sur la glace avec les coachs et qu'est-ce qu'on va faire dans le gym. Puis on vient progresser comme ça. Fait que tu sais, on a beaucoup d'athlètes, d'équipes qu'on suit en fait en présentiel, mais on en a aussi quelques-unes qu'on suit à distance. En soi, ils s'entraînent par eux-mêmes ou en supervision avec quelqu'un, mais avec nos analyses, notre planification, nos programmes d'entraînement, parce qu'on a développé en quelque sorte le système pour pouvoir gérer tout ça, de communiquer avec le coach aussi en place, que ce soit le coach sur glace ou le coach dans le gym, peu importe. Ça nous permet de pouvoir optimiser tout ça. Puis un peu comme si on a un mini département de performance dans une équipe de la NHL. C'est littéralement ça qu'on a recréé à l'interne avec nos équipes de M13 à M18.
Oui. On peut pas. C'est sûr que l'entraînement, c'est un peu comme le reste, là, tout évolue. Donc, on ne peut plus entraîner un athlète aujourd'hui comme on l'entraînait il y a 15 ans.
Non. Non. C'est complètement différent. Puis, tu sais, je fais mon doctorat, donc des articles scientifiques, je dois en lire une cinquantaine par semaine, fort probablement. Puis sur les 50, il y en a bien souvent, je me remets en question, ça va être un peu. Là, je suis parti là-dessus, puis là, t'es un peu. Il y a un article qui vient de dire peut-être que là, ça ne fonctionne pas, ou de l'article qui vient de sortir il y a 2 mois. T'sais. Fait que souvent, ça va se contredire, ça va s'auto-lancer. Puis c'est là que ça devient important aussi par la suite de bien analyser les articles, puis de comprendre comment les lire. Mais oui, ça évolue beaucoup, beaucoup. Puis tu sais, les joueurs, ils en parlent aussi, qu'ils ne veulent pas, la game évolue en soi. Ouais. Il y a Chris Letang qui vient de faire, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, je pense hier ou avant-hier, qui justement, il parlait sur son parcours à lui dans la Ligue nationale. La game a comme changé quand même 2 fois environ de la manière qu'elle joue dans son parcours à lui. Fait que tout ça est principalement dû aussi par la préparation physique qui prend de plus en plus d'ampleur, qui amène des joueurs de plus en plus forts, de plus en plus rapides également sur la glace. Fait que, tu sais, veux pas, ça change. Ça, les stratégies vont évoluer aussi, vont changer. Fait que, tu sais, c'est un peu un mélange de plein de choses, mais 100%, tu peux pas... je vois encore des athlètes qui s'entraînent avec des programmes du même style que j'avais quand j'étais plus jeune, tu sais, de la même façon. Puis je vois ça encore aujourd'hui, à ce jour, puis... Ça me fait capoter, tu sais, quand je vois ça. Il y a des joueurs professionnels que je connais, je ne vais pas nommer de nom, mais qui vont à des endroits, tu sais, que c'est le même programme papier qu'ils ont année après année, et ça depuis environ 7-8 ans, tu sais. C'est débile. Mais tu sais, ce joueur-là n'a jamais réussi à percer plus loin qu'exemple la NHL, tu sais. Mais... Il est sur le bord de la porte. Il cogne, la porte est entrouverte, il est là, mais... Il n'y a rien qui fonctionne. Puis, tu sais, après ça, quand tu regardes tout ça en situation, quand ça fait 7-8 ans, 7-8 étés que tu fais la même affaire, tu sais, littéralement le même cartable, genre que c'est juste pour tout apprendre. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, non, tu peux plus vraiment. Là, les méthodes d'entraînement, l'équipement technologique évolue tellement rapidement que tu n'as comme pas le choix de tenir à jour puis de continuer à suivre en soi la parade. Là.
Comment ça se passe un été d'un athlète? On vient de passer un été. L'été d'un athlète qui se prépare pour son camp 18 ou LHJMQ, est-ce que c'est un été intense? Il veut faire l'équipe?
Ben, je te dirais que ça dépend. C'est différent un peu de. Ça a l'air proche M18 à LHJMQ, mais ça peut être très différent pour une raison. Il y en a un athlète qui peut avoir 18 ans puis l'autre non. Fait que là, c'est là que ça peut venir jouer en ligne de compte. C'est pas tout le monde, mais il y en a qui, à la minute qu'il veut 18, vont se la laisser un peu plus lousse. T'sais. Fait que là, la préparation est différente. Elle devrait pas être différente, mais elle est différente à approcher en tant que préparateur physique parce qu'il faut que tu prennes ce genre de trucs-là en considération. Surtout quand je parle, mettons, de récupération, de capacité de travail. Mais mettons qu'on prend l'athlète le plus sage de la Terre puis qui fait vraiment tout bien ses devoirs. Un gars M18, junior majeur, généralement va s'entraîner entre un 4 à 6 workouts semaine. Donc, dans sa préparation estivale. Au début de l'été, on touche pas ou presque pas à la glace. Puis plus que l'été va avancer, généralement, vers les 6 semaines avant un camp, on va commencer à augmenter le volume, le pace un peu sur la glace. Puis de délaisser un peu le conditioning qu'on appelle, donc l'entraînement plus cardiovasculaire dans le gym, on va commencer à le descendre parce que là, il va commencer à prendre plus de place sur la glace. Fait que c'est un peu, en quelque sorte, un transfert vers plus le spécifique. Donc, règle générale, en termes de fréquence, ça va ressembler un petit peu à ça. Puis après ça, ben là, tout dépendamment un peu les objectifs là, de chaque athlète ou de comment tu as déterminé son profilage athlétique, ben là, c'est là que les méthodes d'entraînement, le type de workout va varier beaucoup, va changer. Rendu vers l'âge de M18, junior majeur, là, les gardiens de but commencent à avoir des choses beaucoup plus spécifiques à eux que quand on dit M13, M15, souvent, si on va l'entendre beaucoup, « Ah, mais moi, mon gars, c'est un gardien, t'es-tu capable de faire ça? » Ben, ouais. Un, oui, je travaille avec plus que 100 gardiens par année, fait que ça, je suis correct, mais tout dépendamment de l'âge, bien souvent, il n'y a presque pas de différence à faire en soi parce que ce qui arrive, c'est que ça me ramène un petit peu à un bébé. Un bébé va apprendre à ramper avant de commencer à marcher à quatre pattes, avant de commencer à se lever debout pour marcher et même avant de courir. Ouais. Donc, il y a des séquences logiques. Mais c'est un peu la même chose. On devient un athlète avant de devenir un joueur de hockey et avant de devenir un gardien ou un défenseur ou un attaquant. En termes de préparation physique, c'est comme ça qu'on avance. T'sais. Fait au final, là, après ça, on pourrait partir un débat là-dessus sur les positions aussi, des joueurs de 12 ans. Non, moi, mon gars, c'est un centre. Là, après ça, on pourrait partir des débats. Puis on a l'exemple parfait avec Jack High, que peut-être qu'il y a des branches, que peut-être que l'ours a dit à l'autre personne qu'il va peut-être utiliser une quatrième ligne. Ben, ça demande, veut pas, de la capacité d'adaptation puis de connaître cette position-là si on veut pas avoir l'air d'un fou, c'est rendu dans la Ligue nationale. Mais c'est l'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi, ça a été mon exemple aussi. Quand que, là, c'est une parenthèse, mais quand que je jouais, moi, mon année Bam-Tam, fait que M15, deuxième année, donc là, aujourd'hui, il y a des 3A, là, mais dans le temps, il n'y avait pas de 3A, c'était juste 2A. Puis j'ai été retranché, j'étais défenseur, puis j'ai été retranché comme défenseur Bam-Tam 2A, donc M15 2A, qui équivaut au 3A aujourd'hui. Puis j'ai été retranché, puis on a checké voir avec le coach s'il ne voulait pas m'essayer une game hors concours à l'attaque. Fait que j'ai essayé une game hors concours à l'attaque, puis le style de joueur que j'étais, j'adorais amener de l'énergie de frapper dans ce temps-là. Quand même pas si longtemps que ça, mais il n'y avait pas de règlement nécessairement de les deux patins doivent être parallèles aux autres, puis frapper dans la même direction. Tu pouvais frapper dans toutes les directions pas possibles tant que c'était pas à tête. C'était à peu près ça. Okay. Fait que ça, je l'avais compris. Puis c'est un peu de même que j'ai fait une game hors concours, puis j'ai amené beaucoup d'énergie de même. Puis finalement, le coach n'était pas supposé prendre de 10e attaquant. Puis finalement, il a pris un 10e attaquant qui était moi. Puis par la suite, de fil en aiguille dans la saison, plus que ça avançait, finalement, j'étais 10e attaquant, puis à un moment donné, je montais de ligne, puis c'était rendu que je jouais avec des gars de premier trio, puis je lui faisais de la place à la glace, t'sais. Fait que je lui faisais de la place à la glace, je mettais mes fesses en avant du net, puis je ramassais je pelletais des goals en avant du net, je deviais des pucks, je cachais le goaler. C'est quand même drôle, mais j'entraîne beaucoup de gardiens, puis je suis allé faire une pratique de shooting sur eux, j'étais comme shooter, puis c'est pas plus tard que comme 3 semaines, Puis un des goalers, il dit tabarouette, Phil. Alors, la pratique, c'était des screens. Fait que là, il fallait quelqu'un qui screen. Puis là, j'avais deux de mes athlètes qui shootaient aussi. C'était pratique-là. Puis ils voulaient pas aller faire un screen en avant du net. Ils avaient peur. J'ai dit, voyons, les gars. Fait que là, je m'en vais en avant du net. Je fais mon screen. Tu sais. Puis, là, les goalers étaient comme, voyons, Phil, comment tu fais faire ça? On voit rien. On... Fait que là, il dit, t'étais vraiment bon pour screener. Je dis, c'est sûr, j'ai juste fait ça de ma carrière. mais tu sais, au final, j'aurais jamais été capable, j'aurais jamais joué Bantam 2A. Tu sais, si j'aurais pas fait ce transfert-là, puis j'aurais jamais joué Midget Espoir, j'aurais jamais par la suite fait deux camps junior majeur. Fait que tu sais, c'est ça pour dire que la capacité d'adaptation, là j'ai dévié quand même solide, là, mais tu sais, c'est super important de prendre ça quand on est plus jeune, tu sais, de le travailler dans différentes positions, puis de travailler ces aspects-là.
Ça va être un clip qu'il va falloir faire jouer. C'était pour les associations d'hockey mineur qui veulent freiner les ardeurs, c'est ça, des parents. En tout cas, bref, un autre débat. Ton doctorat porte sur le développement spécifique pour la performance au hockey. Qu'est-ce que tu cherches précisément à démontrer?
Ouais, plein d'affaires. Mais moi, j'ai fait ma maîtrise sur l'impact de la force de préhension. Donc, avec un dynamomètre, tu mesures, tu sais, souvent on va voir ça dans les camps d'entraînement, les prospects, souvent les équipes vont comme donner le dynamomètre aux joueurs, puis ils vont forcer le plus fort possible, puis là, on va voir les scores, tu sais. Puis ils font une petite compétition. Mais en gros, j'ai fait ma maîtrise sur la force de préhension, l'impact que ça avait sur le maniement de la rondelle en position statique, donc sans mouvement versus en mouvement avec les patins sur la glace, tout ce qui est précision et la puissance des lancers. Fait que j'ai vraiment comme opté vers de quoi plus musculaire, force, pour démontrer certaines choses. J'en ai conclu, j'ai été capable de pouvoir établir une équation qui me permet à partir de poids, grandeur de l'athlète et force de préhension, de un, voir le meilleur flex possible du joueur pour son bâton pour qu'il ait une meilleure shot en fonction de son poids, sa grandeur et sa force de préhension, mais aussi de pouvoir montrer en fait que, OK, ben, à partir d'une force de préhension, on est capable de pouvoir prédire la vitesse de ta shot. Puis de façon quand même assez précise, à peu près à 88% de précision. Fait que c'est quand même très bon, honnêtement, comme équation de régression. Puis, fait que j'ai fait vraiment là-dessus. Puis après ça, ben là, mon doc, là, je me suis lancé un petit peu plus vers le bas du corps, vers l'impact sur tout ce que ça peut avoir sur l'accélération, les changements de direction, l'agilité sur la glace. Donc, je regarde un petit peu plus le volet pliométrique, donc un indicateur en soi qui s'appelle l'indice de force réactive. Donc, en anglais, c'est le Reactive Strain Index. On va souvent plus l'entendre comme ça. Je valide un petit peu, en quelque sorte, cette mesure-là, puis voir l'impact que ça a vraiment là, sur tout ce qui est accélération, vitesse, changement de direction, agilité sur la glace. Donc, vraiment, je lance mes recherches en soi sur voir quels paramètres regarder en dehors de la glace pour prédire des choses sur la glace sans nécessairement être obligé de louer une heure de glace à 150 pièces de l'heure, louer de l'équipement, louer un coach, ainsi de suite, puis que ça coûte une blinde pour avoir une mesure qu'en claquement de doigts, on pourrait avoir dans le gym. Fait que c'est un peu rapidement, c'est à peu près ça que je fais. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous envoyer ma thèse là, qui est rendue une centaine de pages, si jamais ça vous tente de lire, mais c'est ça. Fait que ça, en gros, c'est environ là-dedans là, que je baigne. Puis aussi, je regarde un petit peu en parallèle cette mesure-là, c'est un super de bon indicateur aussi pour quantifier la fatigue neuromusculaire en soi. Donc, c'est des mesures que j'utilise avec mes M18-3A, mes M15 également. À chaque semaine, on fait ce petit test-là qui est d'exécuter un saut en hauteur. Ça me donne ma mesure de RSI, donc de Reactive Strain Index. Et à partir de là, ben, je peux voir que leur baseline puis la variation. Est-ce qu'on a bien récupéré notre week-end de nos games? Est-ce qu'on a sous-récupéré? Est-ce qu'on est dans notre baseline? Puis est-ce qu'on peut pousser dans le gym ce qu'on avait planifié ou on doit modifier la planification? Puis c'est là que ça joue beaucoup.
Okay. Est-ce qu'il y a des choses que les entraîneurs font encore au hockey puis ils disent tout le temps ah, « ça a toujours été fait comme ça », mais qui ne sont pas nécessairement appuyés par la science?
Ben, plusieurs choses, mais une des premières choses que je pourrais dire, c'est le fameux de baguer les gars, tu sais, dans le sens de « Hey, vous avez joué comme de la merde, désolé du terme, mais vous avez mal joué, vous n'avez pas écouté ou peu importe, vous allez patiner aujourd'hui. » Ça a toujours été fait. Okay. Je pense, j'ai comme l'impression que ça va toujours se faire. Mm-hmm. Mais ça peut être appuyé par la science, des sprints répétés mm-hmm. après des pratiques, qu'elle a des impacts positifs sur le cardiovasculaire. Puis, tu sais, j'ai un ami, collègue à moi à l'université, qui justement, il fait aussi son doctorat, Guillaume Groux, qui est préparateur physique du Phoenix de Sherbrooke, qui était le préparateur physique des Huskies il y a quelques années. Mm-hmm. Puis, lui, en fait, c'est justement, il a fait sa maîtrise sur ce sujet-là, tu sais, sur les sprints répétés après des pratiques, l'impact que ça a sur le cardio des athlètes, tu sais, au courant d'une saison. Si je ne me trompe pas, il avait fait ça chez des juniors 3, là, une équipe junior 3 dans le coin de Montréal. Mais, c'est ça. Fait que, au final, ça, il y a plein d'aspects qui montrent que oui, de faire du patin à haute intensité mm-hmm. peut être bénéfique. Mais il faut que ça soit très bien calculé, très bien monitoré avec les bons temps de repos et ainsi de suite. Puis là, c'est là que le monde va comme dévier un petit peu de la réalité en soi parce que oui, patiner, c'est bon. Ben, ah ouais, on patine, tu sais, avec une poubelle dans le milieu, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut, tu sais. Fait que ça, c'est une des affaires que je te dirais que ça s'est toujours fait, puis ça va toujours se faire, je pense, là.
Ouais, c'est... Hey, super intéressant, segment autour du filet. On va poursuivre ça avec le segment mise en échec, un petit peu plus léger. Donc, le segment mise en échec présenté par Wonder Bread, par Maurice Bordelot.
Yes, je t'ai demandé deux petites anecdotes. Je ne sais pas si tu en as trouvé ou ils sont comptables.
J'en ai trouvé plusieurs de peut-être moins comptables que d'autres. écoute, il y en a des excellentes, mais c'est ça. Peut-être hors onde qu'en onde. Mais écoute, j'en ai plusieurs, mais tu sais. Une anecdote, tu sais, rapidement. Moi, je suis un grand fan de casquettes. Je porte tout le temps des casquettes depuis que je suis jeune. Puis, quand je jouais justement dans le coin de... Je pense que j'avais 15 ans. Ouais, je pense 15 ans. Je jouais midget espoir à Malartic avec le Filon dans le temps. Okay. Puis, il y avait un gars là, qui disait « Ah, je donne ma nouvelle casquette au gars qui mange le ver de terre. » Genre, il y avait un ver de terre qu'il avait amené de je sais pas trop où. Puis, je me suis dit, tu sais quoi, ta casquette est vraiment belle. Puis, avant la pratique, fait que j'ai mangé le ver de terre. Mais, puis, heureusement, il a été un gars de parole. On avait une couple de témoins, fait qu'il m'a donné sa casquette. Mais, épelaille, genre, j'ai mangé, je pense, j'ai calé une bouteille, genre, rapide. Puis, on allait embarquer sur la glace. C'était dégueulasse parce que je l'avais pas croqué, je voulais pas le croquer, mais je le sentais encore dans la gorge, comme il bougeait. Puis là, mon coach se demandait pourquoi je filais pas, puis pourquoi que j'allais tout le temps prendre de l'eau. C'était pas parce qu'il me manquait de cardio cette journée-là, là. C'était vraiment que j'avais quelque chose qu'il fallait qu'il passe. Mais ouais, fait que ça, c'est une petite anecdote là, que je peux compter en soi. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comptable. Sinon, une autre anecdote que très peu de monde savent, mais pendant mon bac, on avait, à la fin des 3 ans, on a la graduation, tu sais, puis le party, puis ainsi de suite. Puis on se demandait comment financer, en fait, genre aller chercher de l'argent, tu sais, pour financer une partie du bal. Puis une des choses qu'on a pensé, tu sais, c'est pas tout le monde qui a participé parce que c'est quand même assez rock'n'roll faire ça, mais. C'était de faire un show de drag queen au Mado. c'est ça. Fait que là, vous voyez ma barbe, il a fallu que je rase tout de A à Z. J'étais flanc nu dans la face. Puis, fait qu'on a fait un show, on était quatre duos. On était quatre duos. Il commence à être tard. Hein? Fait que, on était quatre duos. Puis, c'est ça. Fait qu'on a fait un show en drag queen au Mado, maquillé tout par des drags de là-bas. c'était quelque chose. On a ramassé, de mémoire, une affaire comme 16 000 quelque chose. On a ramassé de l'argent de fou. Là, tu sais, moi, j'avais comme pas dormi vraiment de la nuit parce que la veille, on a appris notre chorégraphie, moi et mon partner, genre en jouant à Just Dance. Genre littéralement, on jouait à Just Dance, il est sorti sa vieille oui. Puis on a joué à Just Dance quasiment toute la nuit pour apprendre notre chorégraphie. T'sais. Fait que c'est une autre petite anecdote qui n'a pas vraiment rapport avec le hockey, mais qui est très peu. L'after, tout le monde le sait là, que j'ai fait de la drag queen.
C'est excellent. On ne demande pas toujours des anecdotes en rapport avec le hockey, donc c'est en rapport avec notre invité. Donc, deux excellentes anecdotes.
Je voulais parler des chandails qu'on voit en arrière. C'est un chandail signé Hudson puis l'autre Crosby, Team Canada.
Okay. C'est chandail de Crosby, ouais, Team Canada de cette année aux Olympiques.
OK.
Ouais. Ça a été. Moi, Crosby, c'est mon joueur préféré. Ça va toujours l'être. Pour moi, c'est le meilleur joueur. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, quand j'ai vu le chandail, ça fait longtemps que j'en veux un vraiment comme significatif en soi. C'était pas mal le seul qui était plus abordable que l'autre de son Golden Goal en 2010 là, à Vancouver. Fait que c'est normal. Quand je l'ai vu, j'ai dit c'est bon, c'est là, ça va être canné, c'est fait, je l'ai. Mais ouais, fait que j'avais pas le choix d'en avoir un. J'en ai tellement que. Puis j'ai pas celui de mon joueur préféré, ça faisait comme pas de sens.
C'est clair.
Yes. Puis on va être prêt pour le dernier segment, les tirs de barrage.
Yes, sir. Donc, les tirs de barrage présentés par D-Alex pour de l'équipement pour votre équipe, c'est la place. Donc, Philippe, quelques questions en rafale. Ensuite de ça, on te laisse passer une belle soirée. Let's go, Seb.
Le plus gros joueur que tu entraînes?
Le plus gros, genre...
LNH ou...
OK, ben... J'en ai deux. Les deux viennent de l'Abitibi. Fait que Nicolas Roy et Jay Lauzon. Puis si je prends ta question, mettons, pur et dur, le plus gros, ben, c'est Jérémy. Et c'est une pièce d'homme.
Oui, oui.
Un first son de golf de rêve. Est-ce que tu joues au golf?
Je joue au golf, oui. Puis j'ai passé proche de dire une anecdote par rapport à ça tantôt. Mais,
donc,
mais oui, j'adore.
Le golf de rêve, ça peut être célébrité, décédé, peu importe. Là, okay. C'est,
Non, j'adore le golf, puis je pense honnêtement, puis ça fait longtemps que je le dis, mais je pense que je suis meilleur au golf que j'ai été au hockey. Pour de vrai. Il n'y avait juste pas de sport-études golf à Malartic dans le temps, au tremplin, quand que je jouais, parce que sinon, j'aurais vraiment, mais vraiment considéré changer. Fait que là, la question qui n'est pas vraiment en rafale, mais qui se tire. Donc, le foursome de rêve, c'est sûr, je mets Crosby là-dessus. Crosby est là. Par la suite, Tiger Woods, ça prend un joueur de golf quand même. Fait que moi, on est rendu à trois. Sinon, je vais être le caddie de quelqu'un. fait que moi, Crosby, Tiger Woods, puis et ça va être un mix bizarre. Bah ok, ouais non, ça va être parfait. Bob Bissonnette.
Okay. Hey. Wow. Ouais. Hey, j'aime ça.
Ouais. J'adore, en plus, c'est 10 ans de son accident, je pense, en fin de semaine, je ne me trompe pas, vendredi. Là, c'est...
Ouais. Ah, mon gars, il a 4 ans, puis il a commencé à m'écouter pas mal. Là. Fait que là, je vais le porter à la garderie, c'est du Bob Bissonnette qu'on met, je vais le chercher, c'est du Bob Bissonnette qu'on met. Fait que ça commence à rejouer pas mal.
Ton joueur préféré de hockey en ce moment?
Mon joueur préféré de hockey en ce moment, ben là, c'est sûr, Crosby, ça va être dur à détrôner en soi, mais de voir jouer là, que j'adore, c'est sûr que l'année passée, Cole Caulfield n'était pas plate à regarder. Demidov, j'ai hâte de voir. Mettons, si on parle plus canadien, mais c'est pas mes joueurs préférés, mais ça reste Crosby.
Okay.
Qu'est-ce qui est le plus important pour un jeune joueur? Être fort, être rapide ou être explosif?
La réponse facile serait les trois, mais c'est d'être fort. Puis là, quand je dis fort, c'est pas de genre, moi, je bench trois plates, puis c'est moi le meilleur au hockey. T'sais, c'est vraiment d'être fort parce que c'est la qualité mère qui te permet de transférer sur le reste.
Mm-hmm.
On peut être vite jusqu'à un certain point, mais c'est pas trop long que ça plafonne. Ça prend de la force pour être capable de la déployer rapidement et d'être rapide. Autant que la puissance, c'est la combinaison de la force et de la vitesse ensemble qui donne la puissance. Fait que tout est un en quelque sorte, à un moment donné, on ne peut pas être plus vite que Usain Bolt. Si on parle de vitesse, nous, à l'état pur, ça se bat pas à toutes les années, ce genre de vitesse-là. Tandis que de la force, on voit du monde de plus en plus fort tout le temps. T'sais. Fait que il y en a qui sont legit, il y en a qui sont sur le stock, mais ça c'est autre chose. Mais il y a toujours la force, il y a comme moins de limites en soi. Okay. Où ça prend beaucoup plus de temps à atteindre la limite que de la vitesse. Donc, je dirais la force, tout simplement, parce que c'est ce qui se transfère sur le reste. C'est la fondation.
Si tu avais un jeune joueur de 15 ans devant toi et tu avais seulement 10 heures pour améliorer son potentiel, c'est sur quoi tu travaillerais?
Il y a un énorme aspect que je travaillerais sur sa posture. Parce que à la minute que tu regonfles les tires, égale les 4 tires, automatiquement, tu es capable d'aller chercher une meilleure performance. Puis, tu as moins d'usure, tu n'as pas de compensation, ton char roule mieux, tu as moins de chances de te blesser. Fait que déjà là, à base, c'est là que je vais chercher le plus de bienfaits, de bénéfices dans une préparation physique quand on réaligne le corps. Pour éviter les compensations, on bâtit sur de quoi de solide. T'sais. Si je bâtis une maison, puis je coule mes fondations un petit peu tout croche, puis je ne mets pas de bord d'armature là-dedans, puis je suis loin d'être un gars de construction, là, mais assez, je m'y connais assez pour savoir que si tu fais ça un petit peu tout croche, ta fondation, le reste de ta maison risque d'être tout croche. T'sais. Fait que déjà là, c'est pas mal le gros baseline que j'irai m'attaquer.
Quel exercice est beaucoup trop populaire chez les joueur de hockey, selon toi?
L'exercice le beaucoup trop populaire, il y en a plusieurs. Populaire que beaucoup, beaucoup de monde vont faire, va être genre le back squat, qui a beaucoup plus des meilleures alternatives que ça pour aller développer de la force de puissance spécifique chez le joueur de hockey. Mais je dirais le back squat, sinon populaire, le bench press. Là, il y a beaucoup trop d'athlètes. Puis je dis ça, mais je m'inclus là-dedans. Là, j'adore le bench. Tu vois la cage en arrière, si j'ai 3 minutes, ouais. Puis j'ai un exercice qui me passe par la tête à faire, c'est le bench que je vais faire, fort probablement. Mais ouais, je dirais que bench press, il n'y a pas grand joueur de hockey qui haït ça, tu sais.
Puis au contraire, quel aspect de la préparation est énormément?
Hey, moi aussi rendu tort.
Qu'est-ce qui est sous-estimé chez la préparation?
Sous-estimé, c'est sûr que, bon, ben, pour revenir un petit peu sur l'autre question, tout ce qui est postural, il y a beaucoup de gens qui pensent que la posture, c'est renforcer, étirer, mais en réalité, c'est vraiment plus primitif que ça. Ça va directement au système nerveux. Donc, je dirais que ce qui est le plus sous-estimé, c'est principalement tout ce qui est la posture. En soi, l'alignement postural va avoir un énorme impact. Fait que ça, c'est sous-estimé. Mm-hmm. Puis sinon, mettons, si on parle plus d'exercice en soi, c'est comme un in-between, là, sous-estimé, surestimé, mais tout ce qui est pliométrie, tout le monde connaît ça généralement. Mais très rares sont ceux qui le font comme il faut et qu'ils le comprennent bien. Mm-hmm. Donc, c'est autant comme overrated que under, vu que c'est mal compris.
Que dirais-tu au Philippe de 16 ans?
Je dirais pas mal d'affaires. pas mal d'affaires. Dans plein de sphères de ma vie, mais je dirais que la première affaire que je me dirais, puis probablement la plus importante, c'est de travailler puis de jamais arrêter de, tu sais, que ça soit pas le fun, moins le fun, tu sais, ça va finir par payer, fait que de genre jamais comme arrêter nécessairement, puis que tu sais jamais qui regarde, tu sais, puis ça je le dis souvent à mes athlètes là, parce que justement je l'ai vécu puis je le vois, mais tu sais, tu sais jamais qui te regarde dans l'aréna quand tu rentres, quand tu sors, que tu as eu une bonne game, une moins bonne game, tu ne sais jamais qui va te regarder sur la glace, qui te regarde en dehors de la glace, qui. Fait que, tu sais, pour se rendre junior majeur, pour se rendre professionnel, pour se rendre dans la Ligue nationale, oui, ça demande du talent. Oui, ça demande de travailler ses habiletés. Oui, ça demande de travailler le volet physique. Mais rien n'empêche que c'est aussi une game de circonstances. Puis de. Tu sais, si tu fais les bonnes choses au bon moment, puis tu continues à répéter ça, à un moment donné, les belles choses vont arriver. Puis Puis tu sais, je sais pas si Jane en a déjà parlé, tu sais, Lauzon, sur un moment donné, quand il était avec vous, mais tu sais, dans son agence, il était avec Pat Brisson, qui est la même agence que Nicolas Roy, puis tu sais, il raconte à quelques occasions cette anecdote-là, mais quand que le représentant de l'agence était venu au Forestier voir la game, ben, une des games était venue pour voir Nicolas. Okay. Puis, il n'était pas venu pour voir Jay. Puis, Jay, c'est quelqu'un qui continue à travailler puis à se présenter jour après jour, soir après soir, puis à être déterminé, discipliné, puis continuer à pousser là-dedans. Puis, ce qui s'est rendu, tu sais, ben, pas ce qui s'est rendu compte, mais cette game-là, il ne savait pas que quelqu'un était là. Puis, le représentant de l'agence a flashé sur Jay. Okay. Il venait voir Nico. Puis, finalement, il est parti avec les deux. En soi, il a signé les deux. Parce qu'il s'est dit, on ne peut pas le laisser aller, tu sais. Puis, comme de fait, ben les deux, c'est les deux seuls, l'Abitibi, les deux seuls, quasiment notre cohorte, parce que j'ai la même année qu'eux, mais notre cohorte, 97, du Québec, à jouer dans la Ligue nationale, il n'y en a pas gros. Hein. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais jamais qui est là pour te regarder ou voir. Fait que tu joues midget 3 ou que tu joues midget 2A, 2B, A, tu sais jamais qui va remarquer ton attitude, qui va remarquer ces trucs-là. Fait que ça, je dirais que ça, moi, je l'ai échappé peut-être un peu plus quand j'étais jeune. Fait que c'est une des choses, je me dirais, puis je continue à dire à mes athlètes.
Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite?
Ben, écoute, c'est sûr que ben, la santé, je veux dire, c'est classique, mais me souhaiter de continuer peut-être à aider les athlètes, c'est de quoi qui me passionne, que j'adore, que des fois, littéralement, je vais travailler jusqu'à du 3-4 heures du matin, puis je développe un système, puis dans la dernière année et demie, ça va sortir là, ma nouvelle plateforme pour suivre les athlètes, les tester, les évaluer, les encadrer. Puis, tu sais, là, je donne un dernier push, mais dans le dernier mois, je dois avoir une moyenne de 4h30, 5 heures de sommeil top en moyenne, tu sais, parce que je vais travailler jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, je vais avancer des trucs, puis tu sais, pendant ce temps-là, je suis loin d'être rémunéré, tu sais, en soi, puis ça amène rien à ma famille ou à moi, tu sais, en soi, mais c'est pour le bien des athlètes, puis que ça va faciliter le travail, à les aider, ils vont avoir plus de résultats. Puis, fait que, je dirais de me souhaiter de pouvoir continuer à faire ce métier-là, tu sais, puis à continuer à les aider en soi, dans leur développement, ça serait vraiment probablement la chose que je me souhaite le plus. Ouais.
C'est sûr qu'on te le souhaite, surtout d'un gars qui vient de l'Abitibi, qui s'est parti d'une compagnie à Montréal, tu sais, qui entoure des athlètes autant que ça, c'est vraiment intéressant à suivre.
Merci.
Yes, c'est très intéressant. Puis oui, on te souhaite la santé. On te souhaite ce que tu veux. Et puis, écoute, on te l'avait dit, les tirs de barrage, c'était quelques questions à faire. Et puis ensuite, on t'en allait te souhaiter une belle... Hey, j'ai de la misère aussi. Bref, une bonne soirée. Puis merci beaucoup d'avoir passé au podcast.
Merci pour l'invitation, les boys. Bonne soirée.
Bonne soirée, bye-bye.
Bye.
Yes.
Hey, wow.
Très intéressant,
d'un
bout à l'autre.
Ouais, ben là, on... C'est ça. On a l'air de deux gars en fin de veillée qui s'en vont se coucher, là, j'imagine. Là.
J'espère que Nico va aider après parce que.
Ouais, Nico, c'est ça. Nico, il y a des allégeances un peu farfelues dans la vie. Là, fait que je m'entends pas. C'est sûr que quand tu parles Nico, on s'entend pas à un prix Nobel. Hein, fait que, en tout cas. Ouais, c'est ça. Bon, bref, ça. On va passer au prochain segment. Laissons la parole au ref.
Tant qu'à pimper ton popcorn plate, achète Monsieur Céclate.
OK, les deux catégories.
Hey, non, c'était pas du bashing. C'était pas du bashing gratuit, mesdames, messieurs. Nicolas Mercier est avec nous.
Je peux même pas me défendre.
non, il était en dessous.
Hey, j'ai demandé, bon, la saison et la GMQ n'est pas encore commencé, donc je peux pas vraiment faire d'ovation du UF. C'est sûr que je peux vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde du sport ces temps-ci. Donc, bon, les Blue Jays qui, s'ils gagnent ce soir, ils vont être égaux à la dernière position pour les séries. Donc, on regarde ça aller, la course aux séries, hein, le baseball majeur. Sinon, le football, la NFL qui commence là, très, très bientôt dans le mois de septembre, on regarde ça aussi. Donc, là, ce soir, ce que je voulais, c'est un petit pop quiz. Là. J'ai 5 questions. Écoute, le premier qui le sait, je vous donne 10 secondes.
Oui, exact.
Ouais. J'ai pas tout à fait dans le même concept. Je vois vraiment 5 questions à te lancer.
Non, mais pour dire qu'on fait dur.
Ben ouais, mais écoute, c'est pas grave. Moi, j'aime sourire. Moi, j'aime sourire. Voyons, calvaire. Moi, j'aime sourire de vous autres.
Lâche pas, il est 8h. Hein.
Fait que, bref, c'est ça. Fait que je vous donne 10 secondes pour répondre. Si vous n'avez pas répondu, ben, je vais donner la réponse. Si vous le savez, ben, écoute, vous le dites. Si vous ne le savez pas, ben, je vous ai pas dit. Fait que, vous êtes prêts?
Ouais.
No.
Donc, 5 questions. Première question. Quelle équipe est la JMQ? Est-ce que Mario Lemieux a évolué?
Les voisins de Laval.
Oh, wow! Un morceau de robot pour Nicolas. Excellent, excellent, excellent. Qui a été l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley en 2007?
C'est Ducks d'Anaheim.
Ouais. Wow! Hey,
Jean-Sébastien, j'ai
Oui. En quelle année est-ce que Jean-Sébastien Giguère a gagné le trophée Conn Smythe?
2006.
Non.
Non?
2009?
Non.
2008?
Non.
2005?
2003?
On va tout les dire.
On va tout les dire, on va l'avoir maintenant.
En 2003. Nommez-moi deux joueurs sélectionnés premiers au total au repêchage qui ont joué pour l'Océanique de Rimouski. Deux joueurs.
Lafrenière et Crosby.
Bon, hey, c'était ça.
Ah, Barnac, c'était rapide. Moi, je t'occupais avec mon live TikTok. Si l'autre,
c'était facile. Fait que là, ça fait trois questions, là?
Ouais.
Bon, ben, vous savez compter jusqu'à là, c'est pas pire.
Quatre avec les coupes. Tu parlais des coupes, tu parlais de Giguère, Mario Lemieux.
Ouais.
Puis, c'est ça, ça fait quatre. Moi, je voulais voir s'il y a quelqu'un qui suivait. Ça a l'air que Nico, il suit.
J'ai pas un prix Nobel, là, mais.
Bref, dernière question. Le dernier joueur à avoir réussi 50 buts en 50 matchs.
Mike Bossy. C'est l'année.
Non.
Non.
On l'a pas toutes les deux.
C'est l'année, il l'a jamais réussi. Bossy, il l'a réussi, mais c'est pas le dernier. Bon, ça fait plus que 10 secondes.
Ouais.
C'est ça, c'est Brett Hull.
On l'aurait pas eu.
Non,
c'est ça, vous l'auriez pas eu. Peut-être trop jeune, les boys, peut-être.
Ah oh, ouais.
Là, écrivez-moi pas, là, Austin Matthews, il a réussi 51 buts en 50 matchs. Non, c'est pas vrai. C'était pas les 50 premiers matchs de la saison. Sa séquence, oui, c'est vrai qu'il a fait 51 buts en 50 matchs, mais c'était pas dans les 50 premiers matchs de la saison. Donc, selon les livres de la Ligue nationale, ça compte pas.
Bon, Matthews, c'est un pourri, non, c'est une...
Non, c'est ça. J'ai plus Toronto, c'est pas bon.
Ouais, non, c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça. Merci Nico d'être venu.
En même temps, je voulais remercier, féliciter Nico que je suis loin de l'annoncer là.
T'as commencé.
J'ai commencé.
C'est-tu officiel?
C'est-tu
pas mal, ouais.
Ouais. Pas mal, ok. Ben si, tu sais, pas mal.
Ouais, pas mal, ouais.
Ouais. Fait que je pense qu'on devrait se garder une petite gêne, Seb.
On garde une petite gêne?
Ouais. Mais c'est juste parce que c'est pas mal. Là. À la limite, ce serait plus à lui à l'annoncer. Là.
C'est ça, j'ai pas encore annoncé sur mes réseaux. On va attendre un petit peu.
Ok, on va attendre, c'est bon. C'est good.
Mais bref, on est fiers de notre Nico. Et...
On est fiers. Ouais. Même si pour.
Il a beau prendre pour les huskies, là, mais c'est ça.
Il y a des drôles d'allégeance, mais ça va.
Donc, merci Nico. On s'en revoit backstage.
Parfait.
Yeah, je voulais dire aussi, le prochain invité, c'est cette semaine, c'est Nicolas Roy de l'Avalanche Colorado. Nous allons parler avec lui de son futur contrat, sa saison qui s'en vient, sa Coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas. Je parle mal en anglais, je sais. On va parler avec lui de plein de sujets chauds. Son passage à Toronto, s'est-il bien mal été? On va en parler aussi.
Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça va être assez intéressant. Même le fait que tu sais, il a joué en demi-finale contre Jérémy Lauzon. Écoute, ça, c'est ça. J'ai hâte de voir.
Il y avait une petite gageure entre les deux?
J'ai hâte de voir le mindset là, à ce moment-là. C'est sûr qu'en série, écoute, il n'y a pas d'amis l'autre bord, là. Mais juste le fait que, tu sais, quand même, ton body est là.
OK, ça se passe jeudi prochain. Ben, jeudi qui s'en vient à 18h. Là, c'est le moment du concours, Claude. Tu veux-tu m'envoyer la vidéo? J'ai fait le concours vers 18h.
Okay. La petite roulette, okay. Là, c'est ça?
Ouais, la petite roulette, ouais. Shoot-moi la roulette. Félicitations à Isabelle Palardeau qui a gagné le prix. Le prix qui est là, c'est deux billets pour une partie de la LHMQ, un sac de popcorn de M. Saint-Clat, une huile pour la barbe, création gueule de bois, un chandail de Tuff Fortline, ainsi que la casquette que moi et Claude on porte, ainsi que deux petits cadeaux aussi, un collant et un petit bracelet de DLX Apparel. Donc, félicitations Isabelle. Merci de tout le monde d'avoir participé à ce beau concours. On va en faire d'autres sûrement très prochainement.
Ben oui.
C'est oui. Apprécié. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé le contenu, le podcast. Pas mal ça. On est pas mal brûlés, je pense.
Ben oui. Écoute, c'était un très beau podcast avec Philippe Roy, mais on manque d'entraînement. Il devrait nous autres. Il y aurait de la job à faire avec nous
autres. Non. Hey, oublie ça. On suivrait notre vie, je pense, à l'entraînement avec lui.
Moi, je suis un ancien athlète, mais ça fait 25 ans qu'il dort. Là. Fait que c'est ça.
Ouais. Ça serait bon à voir pareil. Peut-être du contenu, là, s'il revient. C'est ça. Fait que tout le monde, bye, merci. Passez une belle soirée.
Hey, à la prochaine.